Salut, c'est David, bienvenue dans un nouvel épisode de C'est pour ma pomme. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode. Ça fait maintenant une grosse dizaine de jours que la WWDC est passée. Et il y a une annonce sur laquelle je voudrais vraiment revenir, c'est l'annonce d'iPadOS. Comme vous le savez, je l'ai déjà dit à de maintes et maintes reprises dans le blog ou dans le podcast, je suis sur iPad à temps plein, j'utilise que mon iPad, j'utilise plus d'ordinateur depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Et l'annonce que j'attendais réellement de la WWDC, c'était de grosses nouveautés pour l'iPad. Je m'attendais franchement pas à un split entre les deux OS, c'est-à-dire entre l'OS de l'iPhone et l'OS de l'iPad. Je trouve qu'au final, c'est pas une mauvaise chose. Ça permettra de bien différencier les deux OS et d'apporter des nouveautés qui seraient pas pertinentes sur l'iPhone, de les apporter directement sur l'iPad sans que l'OS de l'iPhone ne soit perturbé ou que les gestes soient beaucoup moins intuitifs. Donc Apple se décide enfin à sortir un OS bien différent sur les deux devices et ça c'est une bonne chose. Comme je le répète, depuis pratiquement 2 ans que je fais le podcast, j'utilise plus de MacBook, je suis totalement sur mon iPad Pro, je n'utilise que mon iPad Pro pour la vie quotidienne, pour toute ma création et ma lecture de contenu. Donc voilà, c'est vraiment l'annonce d'iPadOS, c'est vraiment quelque chose que j'attendais fortement. Pour commencer, l'interface d'iPadOS a été revue de fond en comble. Enfin, de fond en comble. Ça reste un peu la même interface que l'iPad avait avant. Mais on a quand même droit à de gros changements qui, pour ma part, je trouve, sont assez importants et vont assez changer la vie de ceux qui, comme moi, utilisent l'iPad tous les jours. Avant, vous le savez si vous possédez un iPad, avant on avait sur la première page de l'iPad nos icônes qui je trouvais étaient vraiment trop espacées. Il y avait énormément de vide sur l'interface de l'iPad. Ça c'est quelque chose qui a été revu sur l'interface d'iPadOS. Par la simple et bonne raison que maintenant ils ont implémenté sur la première page, vous pouvez maintenant afficher les widgets et les laisser afficher tout le temps. Alors ça pour moi ça annonce deux gros avantages. Premier avantage, c'est qu'on aura les widgets toujours présents sur l'interface. Si vous avez des widgets qui vous servent tous les jours, alors j'ai pas forcément d'idées là qui me viennent en tête, mais vous avez peut-être des widgets qui vous servent tous les jours, que ça soit sur votre iPhone ou sur votre iPad, et ça peut être bien de les avoir toujours sur l'interface pour les avoir toujours à vue d'œil. Deuxième gros avantage que je vois, comme je le disais il y a 2 secondes, c'est que le fait d'afficher ces widgets sur la première page de l'OS, fait que les rangées d'icônes vont être beaucoup plus resserrées et on va avoir beaucoup moins la sensation de vide sur l'interface de l'iPad. Les icônes seront beaucoup plus rapprochées et ça paraîtra beaucoup plus rempli. Donc moi voilà, déjà rien que dans l'interface, c'est deux grosses nouveautés, c'est une grosse nouveauté qui apporte deux avantages qui pour moi vont pas réellement changer mon quotidien à 100%, mais qui vont apporter des petites choses qui sont pas négligeables quand vous utilisez votre iPad comme ça au jour le jour, que c'est votre appareil de production. Pour revenir plus précisément sur les grosses nouveautés d'iPad, c'est vraiment sur cette chose que je veux revenir dans cet épisode. Ça va pas être un épisode très long, mais voilà, c'est pour revenir sur les grosses nouveautés qui vont faire que, je pense, iPadOS va être un game changer pour toutes les personnes qui utilisent un iPad au jour le jour. Première grosse nouveauté, c'est le nouveau multitâche. Alors, auparavant, le multitâche marchait d'une certaine façon. On pouvait afficher 2 applications simultanées sur l'iPad et une application entre guillemets, en flottante par-dessus. Maintenant, il y a 2 grands changements qui interviennent. Déjà, premièrement, vous pourrez toujours afficher vos 2 applications en splittant l'écran sur l'iPad. La première grosse nouveauté sur cette fonction-là, c'est que maintenant, on va pouvoir afficher 2 fois la même application. Ça peut ne pas paraître grand-chose, Mais imaginez que vous ayez à afficher deux fois Notes, deux fois Safari pour faire une recherche sur deux sites différents, ou deux fois Notes pour aller chercher dans une note et copier dans une autre. Avant, ça vous obligeait à ouvrir une note, à refermer la note, enfin à faire un copier-coller, à refermer la note, à aller dans une autre note, à la rouvrir, à faire le coller. Maintenant, vous pourrez carrément sur le même écran afficher les deux notes bien distinctes, faire du copier-coller de l'une à l'autre. Pareil dans fichiers, vous pourrez passer des documents ou tout autre chose d'un fichier à l'autre, ce qui va grandement améliorer le quotidien. Deuxième grosse nouveauté qui intervient, et je pense que c'est une des plus grosses nouveautés, c'est que la fenêtre qui était flottante auparavant, c'était une fenêtre fixe. Vous pouviez afficher une fenêtre et si vous vouliez en afficher une autre, il fallait faire disparaître celle-ci, rappeler le doc, en refaire venir une autre. La grosse nouveauté dans cet iPadOS, c'est que maintenant vous pourrez ouvrir plusieurs fenêtres en flottante. Alors bien sûr, toutes ces fenêtres que vous ouvrirez en flottante ne seront pas visibles en même temps. Mais du moins, elles seront dans un espèce de multitâche qui, vous pourrez, comme sur l'iPhone, avec la petite barre en bas, switcher de l'une à l'autre très facilement. Donc en avoir 5, 6, 7, tout un tas ouverts en même temps. Et vous pourrez switcher d'une à l'autre, ce qui va rendre le quotidien beaucoup plus agréable. Deuxième grosse nouveauté annoncée sur iPadOS, c'est que Safari maintenant passe en mode desktop. C'est peut-être pas grand-chose non plus. Comme je vais beaucoup le répéter dans cet épisode, toutes les nouveautés qui sont annoncées sur iPadOS vont peut-être paraître assez futiles pour certaines personnes qui n'utilisent pas l'iPad tous les jours ou qui n'utilisent pas l'iPad comme leur premier device. Mais c'est toutes des petites nouveautés ajoutées l'une à l'autre qui font justement que cet OS pour iPad plus spécifiquement apporte au final une grosse nouveauté, une interface et une façon de l'utiliser qui va réellement changer la vie. Donc comme je le dis, Safari passera en mode desktop, ce qui fait que vous pourrez afficher Safari tout comme vous affichez Safari sur un ordinateur. Ce qui fait que vous pourrez utiliser des sites internet en version web. Alors j'ai des idées en tête, mais Google Docs, le site de WordPress, qui était beaucoup plus difficile à utiliser en version web. Il fallait passer par des apps, c'était beaucoup plus facile à utiliser quand vous étiez sur un iPad. Maintenant, vous pourrez les utiliser directement sur Safari avec le mode desktop normal comme vous l'utiliseriez sur un Mac. Ça, c'est une bonne chose. Autre grosse nouveauté qui a été annoncée sur iPadOS, l'application fichier a été revue de fond en comble. Maintenant, ça va prendre en charge iCloud Drive, qui permettra le partage de fichiers. Elle intègre aussi maintenant des fonctions basiques telles que la gestion de la compression et de la décompression des fichiers, qui n'était pas possible de faire avant. C'était possible de le faire avant bien sûr, mais avec des apps tierces qui marchaient franchement pas trop bien et qui buguaient pour la plupart du temps. Maintenant, ça sera intégré à l'OS et ça sera beaucoup plus simple à utiliser. Autre grosse nouveauté. Alors, c'est certainement une des nouveautés que j'attendais le plus sur iPadOS. C'est une nouveauté qui, je pense, va énormément servir à toutes les personnes qui font de la vidéo, qui font de la photo, qui font tout un tas de choses comme ça, assez créatives. C'est le stockage externe. On pouvait pas, jusqu'à maintenant, utiliser un disque dur sur l'iPad, brancher un disque dur externe sur l'iPad, c'était demandé. Je pense que c'est une des demandes qui était le plus faite depuis l'arrivée de l'iPad en 2010. C'était que l'iPad puisse gérer les stockages externes, qu'on puisse mettre un disque dur attaché à l'iPad. Vous pourrez maintenant le faire. Alors attention, il y a certains sites internet qui l'ont testé. Ça ne marche pas avec tous les types de fichiers. Il y a certains vieux iPad qui ne le supporte pas, ou du moins s'il le supporte, quand vous branchez votre disque dur, l'iPad va le reconnaître comme être un fichier qui n'a pas assez de puissance pour être reconnu. Alors il y a quelques tips, j'ai vu dernièrement, qui sont sortis. Dans ces cas-là, il faudra utiliser l'adaptateur Lightning, vous savez l'adaptateur qu'on trouve sur le site d'Apple, qui d'un côté est Lightning, de l'autre côté vous avez une prise USB-A et une prise Lightning, et dans ces cas-là vous pourrez utiliser votre disque dur mais en branchant en même temps l'iPad pour avoir un regain de puissance. Mais ça, franchement, c'est une grosse nouveauté. Le fait que l'iPad puisse gérer les disques durs externes, comme je vous le dis, pour des gens qui font de la photo, qui font de la vidéo, surtout pour les gens qui font de la vidéo, qui veulent mettre leur rush sur un disque dur et pouvoir les utiliser sur une application comme LumaFusion, ne pas être obligé de stocker tous les rushs sur l'iPad. Alors même si vous avez un iPad comme moi qui a beaucoup de disques durs internes, mais c'est toujours plus facile d'avoir les rushs sur un disque dur, de pouvoir les stocker sur un disque dur, même pour les garder après, et pouvoir faire son montage ou gérer ses photos d'un disque dur, et ne pas avoir les fichiers directement sur l'appareil. Autre petite nouveauté, alors qui parlera à certains, qui me parle un peu moins pour l'instant à moi, mais je ne doute pas que j'en trouverai certainement une utilité par la suite, c'est la gestion des polices personnalisées sur l'iPad qu'on pouvait pas avoir avant. Maintenant, vous pourrez télécharger des polices personnalisées par le biais d'applications qui seront disponibles sur l'App Store. Autre petite nouveauté que j'ai remarqué et qui est assez amusante, même si... Là, tout de suite, j'en vois pas une grosse utilité, mais c'est le clavier flottant. Vous saviez, avant, vous aviez le clavier qui était en grand en bas de l'iPad, qui utilisait quasiment un tiers de l'écran. Et ben maintenant, par un simple swipe de la main, vous pourrez le rétrécir et l'utiliser en format clavier iPhone, ce qui va permettre de le laisser dans un coin de l'écran quand vous avez une petite chose à écrire, mais que vous voulez pas masquer l'entièreté de l'écran. Autre petite chose qui concerne le clavier, c'est la gestion du clavier SwiftKey. J'en avais parlé avant, dans l'épisode précédent. C'est bien pour certaines personnes qui utilisent ce clavier. J'avoue franchement que j'ai jamais réussi à utiliser ce clavier. Donc pour moi, ça n'a pas une grande utilité, mais c'est bien. Android le faisait depuis des années et des années. C'est bien qu'Apple le gère maintenant. D'autres petites nouveautés seront disponibles, mais franchement pas réservées à l'iPad. On les retrouvera aussi sur l'iPhone. C'est la nouvelle photothèque. Apple l'a montré pendant sa keynote. La photothèque de l'iPad et de l'iPhone sera totalement revue. Et je trouve franchement que le design est pas mal. Une nouvelle application plan qui devrait changer pas mal de choses. Alors pour commencer aux États-Unis. Par la suite sûrement dans le reste du monde, mais les grosses nouveautés de plan arriveront déjà aux États-Unis. Je ne doute pas que dans notre version qui arrivera à l'automne, on aura déjà quelques petites nouveautés en plus, mais ça sera pas au niveau de ce que auront les Américains dès la fin de l'année. Le fameux mode sombre qui arrive sur l'iPhone et qui arrive aussi sur l'iPad, ça peut paraître futile pour certains. Je sais que moi, comme je l'avais dit, sur mon iPhone, tout ce que je peux passer en mode sombre, je le passe en mode sombre. Je trouve ça beaucoup plus reposant. Donc, je ne doute pas que c'est une fonction que je vais utiliser tout le temps. Autre petite nouveauté, la latence de l'Apple Pencil. Pour les gens qui utilisent l'Apple Pencil, la latence était déjà vraiment très très bonne sur l'Apple Pencil, même de première génération. Elle était de 20 millisecondes, maintenant elle passe à 9 millisecondes. Je ne doute pas que pour les personnes faisant du dessin ou toute autre application qui utilise réellement l'Apple Pencil qui dans son entièreté, verront, je pense, une petite différence. Le support de la souris arrive aussi sur iPad. Alors, dans mon dernier épisode qui couvrait la WWDC, j'avais dit qu'il ne le couvrait pas, j'avais encore pas lu exactement tous les sites parce que j'avais enregistré juste après la keynote, mais il s'avère que Apple n'en a pas parlé pendant la keynote d'ouverture de la WWDC. L'iPad va quand même gérer la souris. Alors c'est une fonction qui n'a pas été mise en avant lors de la keynote pour une simple et bonne raison, c'est qu'elle est destinée à l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Dans un premier temps, certaines personnes pourront l'utiliser, même des personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Pour ce que j'en ai vu là ces dernières semaines, des gens qui l'ont testé, le pointeur reste encore très gros sur l'écran, ça simule un doigt, donc j'ai pas franchement l'impression que pour une utilisation entre guillemets souris comme vous l'utiliseriez sur un ordinateur, ça sera encore vraiment utilisable sur un iPad. Ça ne reste que qu'une souris d'appoint, on va dire, ou vraiment destinée à des personnes qui en ont réellement besoin, qui ne peuvent pas utiliser le touch sur un iPad. Voilà, c'est un peu les grosses nouveautés que moi j'ai vues sur l'iPad. Alors attention, iPadOS ne sera pas compatible avec tous les iPads. Il sera compatible en gros avec 10 modèles d'iPad. Pour ainsi dire, les seuls modèles qui n'iront pas droit, c'est l'iPad Air original, l'iPad Mini 2 et bien sûr les iPads antérieurs. Autrement, tous les iPad Pro auront droit à cette mise à jour. Les iPad Mini de 5e et de 4e génération, les iPad Air de 3e et l'iPad Air 2 auront tous droit à la mise à jour d'iPadOS. Pardon. Alors, j'ai cherché un peu sur le web, je sais pas si tous ces iPads auront droit à toutes les fonctions. Les gens qui l'ont testé n'ont encore pas sorti cette information, mais je ne doute pas que c'est une information qui sortira dans les semaines à venir, quand la bêta publique va sortir et que beaucoup plus de gens vont le tester. Pour ma part, je n'ai encore pas passé mon iPad en iPadOS, enfin du moins en bêta. Je pense pas que cette année je vais le passer en bêta, pour la simple et bonne raison que, comme je l'ai dit au début, l'iPad est quelque chose dont je me sers tous les jours, quelque chose qui me sert bien sûr à enregistrer le podcast, qui me sert à écrire sur le blog. Donc cette année, j'ai franchement pas envie d'être... Même si les premiers retours disent qu'il n'y a pas énormément de bugs, j'ai quand même pas envie de tester pour avoir des bugs qui pourraient m'empêcher d'enregistrer ou d'écrire sur le blog. Donc je pense pas franchement le passer, ou alors si je le passe en bêta, ça sera vraiment dans les dernières bêta, juste avant la sortie finale à l'automne. Pour l'instant, je pense ne passer en bêta que mon iPod Touch. Ça suffira pour tester un peu les nouveautés. Mais mes appareils de production et mes appareils dont je me sers tous les jours, je pense que je vais attendre vraiment le dernier moment pour les passer en bêta. Donc clairement, c'est la mise à jour que moi j'attendais depuis des années sur l'iPad. Je pense que ça va amener l'iPad, et plus spécifiquement l'iPad Pro, à un niveau vraiment supérieur. On va vraiment se rapprocher de tablettes professionnelles comme la Microsoft Surface ou comme vraiment des ordinateurs portables. Je pense que ça va apporter énormément de choses. Moi, vraiment là, avec le recul, je regrette pas du tout d'être passé sur un iPad et d'avoir abandonné mon MacBook. Je vois avec le temps que j'arrive à faire de plus en plus de choses avec mon iPad, et franchement, ça me réjouit. Et je pense que le fait que Apple ait fait ce split entre iOS et iPadOS, on devrait voir arriver dans les prochaines années des fonctions encore plus pro sur la tablette d'Apple. Je dis ça comme ça, mais en rêvant un peu, pourquoi pas ne voir arriver dans les 1, 2, 3 ans à venir, des applications professionnelles telles que Xcode, Final Cut, Logic Pro. Alors peut-être pas dans leur version totalement ordinateur, peut-être dans des versions un peu plus revues pour l'iPad, mais je ne doute pas que de telles applications arriveront un jour sur l'iPad, ou qu'Apple sortira un jour ces applications sur l'iPad. Elles existent déjà grossièrement par des applications tierces, LumaFusion, Coda existent sur l'iPad. Donc je vois bien Apple dans les 1, 2, 3, 4 ans peut-être, pour récupérer ce marché, sortir ce type d'application sur sa tablette. On sait déjà pertinemment que des applications pro vont arriver cette année sur l'iPad. Adobe a annoncé l'année dernière Photoshop, une version de Photoshop qui sera réellement la même que sur un ordinateur. Donc voilà, je ne vois que des bonnes choses arriver sur l'iPad pour ces prochaines années. L'iPad va vraiment, je pense, devenir une réelle machine de production, du moins l'iPad Pro, avec encore un peu plus de puissance qui va sûrement arriver dans les futurs modèles. On arrive sur une machine qui peut, je pense, pour énormément de monde maintenant, remplacer un ordinateur. Si ça restait encore un tout petit peu réservé à des personnes qui voulaient tester jusqu'à maintenant, je pense que pour tout un tas d'usages maintenant, les gens qui veulent abandonner un ordinateur pour tout un tas de raisons, une raison de poids, pour tout un tas de raisons d'encombrement dans un sac, l'iPad Pro est réellement devenu une bonne alternative. Donc voilà, je fais pas plus long sur cet épisode. Comme d'habitude, si vous voulez interagir, si vous voulez me donner votre avis sur ce que j'ai raconté aujourd'hui, les liens vers mes réseaux sociaux sont disponibles dans la description de l'épisode. Et comme d'habitude, vous pouvez aussi aller sur la page contact du blog c'estpourmapomme.blog. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode. Ciao! Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller sur iTunes ou sur toute autre application de podcast pour lui mettre une note ou des étoiles. Ça aidera le podcast à remonter dans les classements et à se faire connaître.